Merci d'écouter France Inter. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour à tous. Le Premier ministre sommé de descendre dans l'arène, jour de motion de censure à l'Assemblée nationale et même deux pour le prix d'une sur l'affaire Benalla. Si elles n'ont aucune chance d'aboutir, le compte n'y est pas. L'après-midi ne devrait cependant pas tout à fait rimer avec partie de plaisir pour le chef du gouvernement. Faille matérielle, oui, mais défaillance d'un système aussi. Conclusion d'un rapport d'inspection sur l'évasion de Redouane Faïd, selon lequel la hiérarchie pénitentiaire est tout simplement déconnectée des réalités. Courant rétabli en gare de Montparnasse, mais pour un retour à la normale du trafic, il faudra attendre vendredi. Le Brexit ou comment divorcer en douceur, on en parle à 8h20, Frédéric, avec vos invités.
Oui, deux invités dans le grand entretien de la matinale, en exclusivité pour France Inter, le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Brexit dur ou Brexit doux? Les divisions au sein du Parti conservateur à Londres? Quelle coopération entre Paris et Londres? La relation spéciale entre l'Angleterre du Brexit et l'Amérique de Donald Trump? Voilà les questions que nous poserons à Jeremy Hunt. Vous pourrez aussi interroger Florence Fauché. Elle est spécialiste du Royaume-Uni à Sciences Po. Elle nous rejoindra dans le courant de cet entretien. Elle attend vos questions au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Dans l'actualité également, l'Inde où 4 millions de personnes pourraient se retrouver apatrides sur fond de ségrégation religieuse. Le sucre venu d'Asie notamment, qui envahit les marchés mondiaux et voit son cours s'effondrer. Les festivals priaient de prendre en charge le coût des forces de l'ordre, mais certains n'en ont pas les moyens. Ou encore les vacanciers, pas vraiment au rendez-vous de ce mois de juillet. La faute peut-être à une certaine compétition de ballon rond.
France Inter.
Cette fois, plus le choix, plus d'esquive possible. Le Premier ministre va devoir ferrailler avec l'opposition sur le sujet qui monopolise de gré ou de force les parlementaires depuis une dizaine de jours. L'affaire Benalla, avec cet après-midi l'examen de deux motions de censure déposées par la droite d'un côté, la gauche réunie de l'autre. Alors aucune chance, mathématiquement parlant, d'obtenir les 289 voix nécessaires à renverser le gouvernement. Mais l'occasion, outre la symbolique politique, de former des alliances parfois inédites. Frédéric Saïs.
C'est l'une des conséquences inattendues de la crise politique liée à l'affaire Benalla. Cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon et son groupe vont voter les deux motions de censure, dont celle déposée par la droite. Les circonstances l'exigent, selon le député de la France Insoumise, Alexis Corbière.
Nous faisons feu de tout bois et nous l'assumons. C'est la vie parlementaire, c'est comme ça. Il y a des moments où on peut, je veux dire, tout en marchant séparément, frapper ensemble, sur le même clou.
Un clou sur lequel compte aussi taper le Rassemblement National. Marine Le Pen et ses proches soutiendront les textes de la droite et de la gauche, qu'elle surnommait pourtant il y a peu le système. Sébastien Chenu est député du Rassemblement National.
Ça fait bien longtemps que nous avons enterré ces vieux concepts de gauche et de droite et que nous les dépassons. Nous venons rappeler un certain nombre de principes à ce gouvernement qui en manque tant.
Attention à la confusion, met en garde de son côté Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. Le PS, lui, votera la motion de censure de gauche, mais ne soutiendra pas le texte de la droite.
On peut faire front commun sur un sujet d'intérêt général qui est la démocratie, sans pour autant avoir envie de laisser penser que la droite et la gauche, c'est la même chose.
Et la droite, justement, hésite. Offrira-t-elle ses voix à la motion initiée par la gauche? La question fait débat au sein du Parti Les Républicains. Elle sera tranchée ce matin à huis clos.
Alexandre Benalla, lui a-t-il été pris en flagrant délit de mensonge cette fois? Disons que cela y ressemble fortement, avec la diffusion d'une nouvelle vidéo de la manifestation du 1er mai révélée par France Info et Mediapart. On y distingue Alexandre Benalla, mais aussi Vincent Crase, entre eux un manifestant dont ils maintiennent fermement les bras. Des images pas vraiment raccord avec les déclarations d'Alexandre Benalla au journal du dimanche. Il avait alors affirmé « j'étais derrière les policiers en tant qu'observateur ». Et puis on l'a vu, l'affaire Benalla électrise parfois jusqu'à l'injure. Dénonciation aujourd'hui de la co-rapporteure de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui porte plainte pour injures et menaces après des attaques sur les réseaux sociaux. De nombreux messages d'insultes, selon elle, sexistes, antisémites, visant la députée elle-même ou sa famille. Dans l'affaire Benalla, il y a eu les pas vus, pas su, pas entendus de Gérard Collomb devant la commission d'enquête parlementaire, justement. Une même ligne de défense adoptée par Laurent Fabius dans le dossier Lafarge, cette fois. L'entreprise de BTP mise en examen pour crimes contre l'humanité et financement de terrorisme, après avoir conclu des arrangements financiers avec le groupe terroriste État islamique. Entendu comme témoin par les juges d'instruction en charge du dossier, l'ancien chef de la diplomatie a martelé « ce qui est appelé l'affaire Lafarge n'est jamais remonter jusqu'à moi.
France Inter, il est 8h05, la suite du journal Charlotte Piret. Le droit du sol pourrait-il être remis en cause?
Question clairement posée et même en passe d'être adoptée dans la loi pour le département français de Mayotte. C'est une des dispositions du projet de loi Asile-Immigration qui passe aujourd'hui en deuxième lecture au Sénat. Mesure présentée comme une solution à l'immigration massive venue des Comores qui prévoit qu'un enfant né à Mayotte n'obtiendrait la nationalité française qu'à la condition qu'un de ses parents soit en possession d'un titre de séjour depuis au moins 3 mois. Manière inacceptable de restreindre le droit du sol, selon la députée LREM Aïna Curic, qui a donc voté contre le texte et que son parti menace aujourd'hui d'exclure. Aïna Curic, au micro de Victorien Villaume.
Moi, j'assume autant mon vote qu'ils devront assumer leur décision. Vous savez, quand on décide de voter contre un texte, contre un projet de loi porté par son groupe majoritaire, on sait très bien qu'on ait eu des alertes auparavant ou pas, ce qui n'a pas été le cas. On sait très bien qu'à un moment donné, on va devoir confronter nos opinions avec ceux qui étaient pour ou avec ceux qui s'attendaient à ce qu'on suive le groupe. Maintenant, c'est une réflexion que j'ai eue avant d'appuyer sur le bouton contre. Donc une fois que j'ai pris cette décision, on se sent beaucoup mieux après.
Et si exclusion il y a, vous prendrez acte?
J'ai ni envie de revendiquer, ni envie de nier. Voilà, les choses, elles sont comme elles sont. Moi, j'ai fait part de ma position. Je suis là. Si ensuite le groupe prenait une décision, je prends acte, on respecte la décision de chacun.
Il était un détenu surveillé, connu pour sa précédente évasion de la prison de Lille. Et pourtant, il y a un mois, Redouane Faïd s'échappait du centre de détention de Réau en 10 minutes par hélicoptère et aidé d'un commando armé. L'heure était donc venue d'analyser les failles qui ont conduit à cet échec dans un rapport rendu public, comme promis par la ministre de la Justice hier. Et si les inspecteurs pointent des failles matérielles de sécurité, c'est aussi des défaillances humaines qu'il est question, selon eux, à commencer par une direction pénitentiaire peu à l'écoute des remontées de terrain. Corinne Audouin.
Le transfert de Redouane Faïd avait été demandé et la réponse a tardé, a reconnu la ministre de la Justice. À Réau, en effet, les personnels de l'établissement pressentaient que le braqueur préparait quelque chose, mais son transfert devait avoir lieu en septembre. L'inspection pointe une direction insuffisamment réactive, coupée des réalités du terrain. En conséquence, Nicole Belloubet demande à l'administration pénitentiaire de se réorganiser d'ici la fin de l'année, car les moyens du renseignement pénitentiaire se sont focalisés ces dernières années sur la lutte contre la radicalisation au détriment du grand banditisme. Pour y remédier, sur les 100 recrutements prévus d'ici 2020, 15 agents du renseignement pénitentiaire s'occuperont spécifiquement de la criminalité organisée. La ministre de la Justice compte également faire évoluer la loi pour que ces détenus à risque puissent être placés dans les établissements les plus sécurisés, même quand ils ne sont pas encore définitivement condamnés. C'était le cas de Redouane Faïd, qui avait fait appel de 2 condamnations. Son statut de prévenu limitait le nombre de prisons qui pouvaient l'accueillir.
L'incendie avait causé la mort d'une mère de 33 ans, enceinte, et de ses 3 jeunes enfants dans une tour HLM d'Aubervilliers jeudi dernier. Hier, un enfant de 10 ans qui jouait ce jour-là avec un torchon et un briquet a été mis en examen pour incendie volontaire. Il ne pourra cependant être condamné n'ayant pas encore 13 ans. C'est la loi. Ce n'est pas encore tout à fait cela, mais on devrait y arriver. D'ici vendredi, espère la SNCF, pour un retour à la normale après l'incendie d'un poste électrique d'ici les Moulineaux la semaine dernière. Incendie à l'origine de grosses perturbations. 100 000 usagers en galère pour la seule journée de vendredi. Des annulations ou retards de train qui se font ressentir dans toutes les gares de l'Ouest ou presque. Exemple à Quimper avec Léa Dupérin.
Dans le hall de la gare, les valises s'entassent. Sur le tableau d'affichage, le TGV direction Paris-Montparnasse, départ prévu à 11h30, est annulé. Ça n'arrange pas les affaires de Yulis Guillou, monitrice de colonie de vacances.
On vient de Mousterlin, à côté de Fouesnant, pour une colo, et ils vont partout en France, c'est-à-dire Toulouse, Perpignan, Lille, Paris. Tous les trains pour Paris ont été supprimés, donc toutes les correspondances aussi. Et donc on attend un bus.
Même galère pour cet accompagnateur.
Comme on a des enfants qui partent dans d'autres régions de province, donc on a sûrement une nuit à passer à Paris. Les enfants, ils sont impatients, il faut qu'on prévienne les parents pour expliquer.
La file d'attente s'allonge au guichet. Jonas doit repartir en Allemagne ce soir. Son train pour Paris est annulé.
Ils vont plus de billets pour les trains parce qu'ils sont complets. Ça m'embête un peu parce que j'ai un autre train qui part ce soir à 19h06 pour l'Allemagne. Et là, je ne sais pas trop comment faire.
Certains voyageurs ont trouvé d'autres alternatives. Pour cette mère de famille, ce sera le covoiturage.
J'ai réussi à trouver une amie qui arrive, qui est justement là, qui va nous prendre donc en voiture pour nous emmener jusqu'à Rennes. C'est un peu compliqué de devoir à la dernière minute changer les plans. Je suis arrivée samedi soir et je dois repartir aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas eu le temps en fait de voir ça avant et voilà.
La SNCF annonce que le retour à la normale est prévu vendredi.
Le reportage de Léa Dupérin pour France Inter. 8h10, ils étaient plus de 500 bloqués sur les pentes d'un volcan en Indonésie.
L'évacuation des randonneurs pris au piège après le violent séisme qui a secoué l'île de Lombok s'achève. Le tremblement de terre de magnitude 6,5 a fait 16 morts et plus de 200 blessés et des centaines de maisons détruites dans l'archipel. En Inde, la crainte de tension après un recensement qui n'a rien d'anodin. Enquête menée par l'état d'Assam à la frontière avec le Bangladesh et qui a pour but d'identifier les personnes arrivées illégalement ces 47 dernières années. Résultat, 4 millions d'Indiens se voient tout simplement menacés de devenir apatrides. Sébastien Farcy.
Ils ne sont théoriquement plus citoyens indiens. 4 millions de résidents de l'état de l'Assam, soit 12% de sa population, n'ont pas été enregistrés par ce recensement car ils n'ont pas pu prouver qu'ils habitaient dans cette région avant mars 1971. Cette date marque la naissance du Bangladesh voisin, obtenu à la suite d'une guerre sanglante qui a entraîné la fuite de centaines de milliers de personnes en Inde et beaucoup de ces réfugiés bangladais ont réussi ensuite à obtenir la nationalité indienne. Cet examen des listes des citoyennetés est réclamé depuis des années par les politiciens de l'Assam et a finalement été accepté par la Cour suprême en 2015. Mais beaucoup craignent que le gouvernement nationaliste hindou au pouvoir vise aujourd'hui à chasser la population musulmane, illégale ou pas. Dans le passé, des responsables de ce parti ont affirmé que les personnes exclues du recensement seraient déchues de leur nationalité, ce qui les rendrait apatrides, puis renvoyées au Bangladesh. Face au risque de tension, le ministre de l'Intérieur a cherché à rassurer. Tout résident absent des listes peut faire appel jusqu'à fin septembre. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Trop de sucre dans nos assiettes sans doute, mais aussi sur les marchés mondiaux, du sucre venu d'Asie qui entre en concurrence avec la production française. Résultat, chute des cours donc et inquiétude des professionnels. Manuel Ruffez.
Sur un marché mondial de 170 millions de tonnes de sucre chaque année, on enregistre cette saison un excédent de 10 millions de tonnes et ça suffit à bouleverser le marché. François Thory, spécialiste des marchés agricoles chez Agritel.
La tonne de sucre blanc sur le marché de Londres vaut à peu près 275 euros la tonne. En octobre 2016, on était quasiment à 500 euros. Donc c'est un prix qui a été quasiment divisé par deux. C'est vraiment très impressionnant.
C'est en Asie la mousson qui est exceptionnelle. Résultat, l'Inde est passée d'une production de 20 à 32 millions de tonnes. Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières.
L'Inde est normalement un pays légèrement exportateur, voire seulement autosuffisant. Cette année, ils ont d'énormes excédents. Les autorités indiennes s'efforcent de dégager le marché local en favorisant les exportations, ce qui provoque une chute des prix.
Et puis avec les campagnes anti-sucre et les taxes soda, la consommation baisse, souligne encore François Thory d'Agritel.
La demande au niveau mondial, qui était plutôt de l'ordre de 2% progression en rythme annuel, on est plutôt sur un rythme de progression de 1,5%. C'est un élément également baissier sur les cours.
Et dans une Europe qui vient d'abandonner les quotas, qui a produit 4 millions de tonnes de betteraves en plus et qui a déjà semé pour la prochaine récolte, la situation ne va pas s'améliorer prochainement.
Le sucre trop cher, une enquête de Manuel Ruffez, 8h13. Et si les nouveaux critères de sécurité mettaient en danger de nombreux petits festivals d'été ?
Question clairement posée après l'apparition en mai dernier d'une circulaire qui prévoit de facturer aux organisateurs le coût du déploiement des forces de l'ordre. Alors face à des budgets de sécurité qui explosent, certains festivals ont d'ores et déjà jeté l'éponge. C'est le cas à Saint-Molf, en Loire-Atlantique, où le festival vient d'être annulé avant même d'avoir vu le jour. Marion Fersing.
Plutôt que de se mettre dans le rouge dès la première année, le festival Champ Libre a préféré renoncer. Et c'est bien dommage pour l'adjoint à la vie associative Emmanuel Bibard, parce que les habitants, les associations et les commerçants de Saint-Molf l'attendaient avec impatience.
Il y avait une réelle dynamique pour cette première année sur un festival sur lequel les têtes d'affiche étaient vraiment très très prometteuses.
Avec notamment les Nantais d'Orange Blossom, tout était ficelé, et notamment le budget avant l'arrivée de cette circulaire sur les forces de l'ordre.
Le texte est relativement flou, avec une facturation qui se ferait a posteriori.
Impossible donc de prévoir combien vont coûter les forces de l'ordre, et les premiers festivals de l'été ont eu de bien mauvaises surprises.
Plus 800% aux Eurokéennes de Belfort.
Vous avez bien entendu, plus 800% pour le budget sécurité qui est passé de 30 000 à 250 000 euros. Avec une telle augmentation, Vincent Maël, le programmateur du festival, couvre feu à Frossé, ne voit pas comment il pourra faire.
Ça va devenir compliqué, voire impossible, de continuer à organiser nos événements.
Alors il a lancé l'idée d'une réunion à la rentrée entre les différents festivals associatifs, enfin dit-il avec dépit, entre ceux qui auront survécu à l'été.
Pas besoin de chercher très longtemps où poser sa serviette sur les plages. Les chiffres du tourisme sont partagés en Gironde. 44% des hôteliers et restaurateurs se disent plutôt mécontents de ce mois de juillet. Stéphanie Scock l'a vérifié dans les rues d'Arcachon.
Mais où sont donc passés les vacanciers? Sur la route d'Arcachon, la circulation serait presque fluide, pas de file d'attente devant la boulangerie, et le marchand de journaux a le temps de faire ses mots croisés. Place des Marquises, un patron de restaurant se désole devant ses tables vides.
C'est compliqué parce que vous embauchez des serveuses et tout, mais des fois elles se tournent les pouces parce qu'il n'y a rien à faire. On regarde le soir, tout ça, il n'y a pas un chat, quelques mamies qui promènent le chien, mais on ne peut pas dire qu'il y a des touristes qui affluent. On ne comprend pas trop, c'est une saison un peu aléatoire.
Cette saison a-t-elle vraiment commencé? Brice Robin, gérant de l'hôtel La Pergola, nous montre les cases vides de son planning. L'hôtelier pointe la fièvre du ballon rond. Début juillet, les Français auraient fait le choix de rester chez eux devant la Coupe du Monde.
J'en ai parlé avec mon banquier, savoir si les gens épargnaient ou si véritablement il y avait un souci. Aujourd'hui, il me dit que les crédits à la consommation avec la Coupe du Monde ont explosé ces deux derniers mois. La majeure partie pour acheter des télés et abonnements pour pouvoir voir les matchs. Mieux que ce qu'ils avaient avant.
Seul motif de satisfaction, le retour des touristes étrangers à Arcachon, notamment les Belges et les Hollandais. Les trois prochaines semaines seront déterminantes pour les professionnels, mais ce qui a été perdu en juillet ne pourra pas être rattrapé, ça c'est certain.
Stéphane Iscock, dont l'histoire ne dit pas s'il a choisi la télé ou la plage.
Voilà, foot ou Arcachon, il fallait choisir. C'était le journal de Charlotte Piret.